Au-delà du job,
le podcast qui explore le monde du travail
et plus encore.
On dit de l'humain qu'il est une espèce à dépendance sociale. Or, déchiffrer le comportement des autres comme entretenir des relations saines fait appel à notre cerveau social. Les neurosciences explorent les fondements des comportements sociaux et nous aident à comprendre les rapports humains, essentiels dans le cadre professionnel et moteur de performance et d'épanouissement. Alors, comment fonctionne le cerveau social au travail? Le tour de la question avec Emma Villarem, docteur en neurosciences cognitives, cofondatrice et chef de projet chez Cogix.
Je m'appelle Emma Villarem, je suis docteure en neurosciences cognitives et je suis spécialisée sur la question des interactions sociales, notamment au travail. On appelle le cerveau social un réseau de régions dans le cerveau qui est spécialisé dans la lecture de ce qu'on appelle les informations sociales, c'est-à-dire toutes les informations que l'on détecte en provenance des autres, ce qu'ils nous disent, ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent. Et ce sont des régions du cerveau qui ont évolué pour nous permettre d'être experts dans la lecture de ces informations sociales. On sait que le cerveau, il peut détecter en un quart de seconde une émotion sur un visage ou dans une voix. On peut reconnaître des multitudes de visages. Et donc, ces régions-là du cerveau, elles sont vraiment spécialisées dans le fait de nous permettre de bien interagir avec les autres. On a vraiment ce potentiel, puisqu'on est une espèce éminemment sociale. On dit même de l'humain qu'il est une espèce à dépendance sociale. On a besoin des autres pour survivre, comme on a besoin de nourriture ou de lumière du soleil. Et ce sont ces régions du cerveau qui vont nous permettre et sous-tendre notre capacité à interagir. Nos interactions sociales, elles se font évidemment avec un ou plusieurs autres personnes. Et notre cerveau social, ça va être lui qui va nous permettre d'être expert et de savoir gérer ces informations sociales de façon très précise. Et quand on est exposé à d'autres gens, notre cerveau social est entraîné et devient de plus en plus expert, en général avec l'évolution de la vie. Quand on est adulte, on est très très bon à déchiffrer et à comprendre ces informations sociales. On est très bon à attribuer des pensées à l'autre, à lui attribuer des intentions, à comprendre ce qu'il ressent, etc. C'est du coup des fonctions qui sont très pertinentes lorsqu'on parle du travail, puisque savoir bien comprendre ce que nous dit l'autre, ce qu'il pense, ce qu'il ressent, savoir anticiper son état, c'est un élément fondamental pour bien interagir avec lui ou elle. On peut se tromper parce que le cerveau, pour économiser de l'énergie, entre guillemets, bien souvent, il met en place des sortes de raccourcis. Des raccourcis qui lui permettent, en temps normal, d'aller très vite. Seulement, on sait que ces raccourcis peuvent nous mener à des erreurs d'interprétation. Un exemple de ça, ce sont les premières impressions. On sait qu'en un dixième de seconde, notre cerveau peut se faire une opinion sur quelqu'un d'autre, si la personne est compétente ou non, si la personne est aimable ou non, si la personne est sympathique ou non. Or, ces premières impressions, elles s'avèrent parfois erronées, puisque en vérité, notre apparence ne dit pas tout de notre capacité à interagir, à être aimable ou sympathique, etc. Donc, dans certains cas, il faut prendre du recul vis-à-vis de ces automatismes-là que notre cerveau a, mais il faut bien se dire que dans la plupart des cas, ces automatismes, ils sont là pour notre survie. Savoir très rapidement se dire si quelqu'un est notre ennemi ou non, quelque part, on a hérité ça de l'évolution, c'est très pertinent, puisqu'on doit se préparer toujours à faire face à un danger ou à une menace potentielle. Donc c'est important de ne pas voir ces petites erreurs d'interprétation comme le fait que notre cerveau soit biaisé dans tout, mais plutôt c'est la face B d'un mécanisme qui est très adapté du point de vue de la survie, mais qui parfois tombe un peu à côté. Comme on a des interactions sociales très complexes en tant qu'humain, beaucoup plus complexes que ce qu'on avait il y a des milliers et des milliers d'années, il y a en effet parfois des erreurs. Donc c'est important d'écouter un peu ces mécanismes-là, mais aussi de prendre du recul, notamment dans le cas des premières impressions, de se demander si cette personne sur laquelle on a une intuition positive ou négative, son comportement valide ou non notre première impression. On est pétri d'automatismes. Dans notre vie de tous les jours, notre cerveau met en place ces automatismes pour nous permettre de bien fonctionner. C'est important de cultiver ce qu'on appelle la métacognition. La métacognition, c'est la capacité à penser à nos propres pensées, à faire un examen assez fin de ce que l'on pense, à être dans une culture plutôt du doute. On a souvent tendance à penser que le doute, c'est quelque chose de très péjoratif, une faiblesse, alors que quand on étudie le cerveau, on se dit que douter de ses propres opinions, de ses croyances, etc., c'est quelque chose de très sain au contraire, parce que ça permet de prendre du recul par rapport à tous ces automatismes qui sont en place et qui nous influencent au quotidien. Ce qui est intéressant lorsqu'on parle de hiérarchie, c'est qu'on va se rendre compte que la hiérarchie, c'est-à-dire être dans une position où l'on a du pouvoir sur d'autres personnes, D'ailleurs, ce n'est pas tout le temps que la hiérarchie liée au rang hiérarchique, par exemple, dans une entreprise. C'est aussi, est-ce que dans mon équipe, c'est moi qui mène l'équipe, c'est moi qui suis un peu en tête d'équipe, même s'il n'y a pas une hiérarchie qui est formelle. Ce qui est intéressant, donc, c'est que cette hiérarchie, elle va influencer la façon dont les gens pensent, raisonnent, comprennent les autres, etc. L'effet positif, c'est qu'on considère que la hiérarchie, ça agit comme un accélérateur psychologique. Ça permet aux individus en position hiérarchique, donc qui ont le pouvoir, d'être plus déterminés à atteindre leurs objectifs, d'être plus capables de défendre leurs idées, d'être plus capables d'agir et de décider rapidement. Et donc, on se rend compte que les gens qui ont, entre guillemets, le pouvoir, ils vont avoir cette capacité à aller vers l'avant, à se relever des obstacles, à être optimiste vis-à-vis de la réussite d'un projet, par exemple. Donc, la hiérarchie, pour l'individu, elle est assez profitable parce qu'elle va le pousser vers l'avant. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe de façon assez robuste dans la littérature scientifique, cet effet d'accélération psychologique lié à la hiérarchie. Seulement, cette accélération psychologique, elle va se faire au détriment d'autres fonctions cognitives. En fait, dans le cerveau, on a des ressources qui sont finies. C'est-à-dire que quand nos ressources cognitives sont allouées à une tâche, par exemple, ou à un phénomène, il est difficile pour notre cerveau de déployer ses ressources sur tout un tas d'autres tâches, etc. Par exemple, lorsqu'on fait attention à quelque chose, on porte son attention sur une tâche, il est très difficile en parallèle de porter son attention sur plein d'autres tâches de façon efficace. Donc on a des ressources qui sont finies, qui ont tendance à être allouées vers certains buts. Et dans le cas du pouvoir, on se rend compte que les individus, leurs ressources, elles sont plutôt orientées vers des buts stratégiques, vers des buts long terme, par le fait de pousser l'équipe en avant, par exemple pour un ou une manager. Et bien souvent, ces ressources sont allouées donc vers ces buts très long terme, très stratégiques, au détriment d'autres buts qui paraissent plus secondaires mais qui ne le sont pas et que sont les buts sociaux. En fait, bien souvent, les managers, ils vont être pris dans une sorte de course dans leur quotidien de travail qui va les pousser de façon indépendante de leur propre volonté, c'est pas un désintérêt, mais ça va les pousser à se déconnecter petit à petit de leurs équipes. Ils n'ont pas beaucoup de temps, ils ou elles n'ont pas beaucoup de temps, donc maintenir des temps de connexion à l'équipe, voir chacun des membres de l'équipe régulièrement, etc., c'est souvent des temps qui vont passer à la trappe. On sait que ce qu'on appelle le capital social au travail, c'est-à-dire à quel point dans mon travail je bénéficie de confiance. Moi, je fais confiance et on me fait confiance. À quel point je peux bénéficier de soutien, d'entraide. C'est déterminant pour le bien-être, pour la santé mentale, pour la santé physique, aussi pour l'efficacité. Donc, il y a un vrai enjeu à permettre aux équipes de développer ce capital social par les échanges informels, par le fait de mieux se connaître, d'avoir des relations de confiance avec son supérieur hiérarchique ou sa supérieure hiérarchique. Ce capital social au travail, qu'on a tendance bien souvent à regarder de façon péjorative ou à décrédibiliser en disant « on n'a pas besoin d'avoir des amis au travail, l'amitié au travail c'est un bonus, c'est accessoire », ben non en fait, il faut changer de regard là-dessus. C'est important d'avoir des liens sociaux de qualité au travail. Alors l'amitié, je ne sais pas, mais en tout cas de pouvoir trouver de l'aide, de pouvoir discuter, de pouvoir partager ce que l'on ressent, de pouvoir se connaître et en fait créer des espaces pour que les équipes et leurs managers tissent ce lien-là social, qui se passe souvent par le fait de passer des moments agréables ensemble, par le fait d'avoir des temps d'échange informels où on se parle de nos vies, de ce que l'on aime, ce que l'on n'aime pas, de ce que l'on a fait le week-end dernier. Ça paraît accessoire et trivial, mais en fait, c'est fondamental. Ça permet la création d'un lien social qui va après aider l'équipe et qui va aider aussi le rapport du manager à son équipe, qui va maintenir cette connexion, qui finalement, avec le temps, peut avoir tendance à se déliter complètement et à produire les effets néfastes de la hiérarchie qu'on observe sur les interactions sociales. C'est pas incompatible d'être capable d'interagir efficacement avec les autres et d'être en position hiérarchique. On a un cerveau qu'on appelle plastique, c'est-à-dire qu'on a un cerveau qui s'adapte à nos expériences. Je vous le disais, si vous apprenez une langue et que vous arrêtez de la parler, les circuits s'affaiblissent. Si vous continuez à la parler, les circuits se renforcent, se maintiennent. Donc notre cerveau, il est sensible aux expériences que l'on fait. Si en tant que manager, je porte attention à ce que ressent mon équipe, que je le fais activement, que je me mets dans une posture d'empathie, que je me mets dans une posture d'écoute authentique, si je crois profondément que c'est important, alors on se rend compte que les leaders que l'on appelle pro-sociaux, entre guillemets, pro-sociaux, c'est-à-dire qui ont une orientation vers les autres, qui s'intéressent à ce que les autres vivent, ressentent, etc., on n'observe plus chez ces leaders pro-sociaux les effets négatifs du pouvoir sur les interactions sociales, voire au contraire, on observe que ces personnes-là, elles parviennent à mettre l'accélération psychologique au service des interactions sociales. Et que les leaders qui sont dans une posture tournée vers l'autre, authentiquement, ils deviennent carrément des, entre guillemets, super interacteurs ou super interactrices. Ils deviennent des personnes qui sont très capables d'interagir, de comprendre les autres, etc. Donc, c'est pas indissociable la qualité des interactions sociales et le statut hiérarchique, et heureusement. Et tout est une question vraiment de posture. Si un individu a un déclic et se rend compte que il n'a plus aucun temps avec son équipe, que lorsqu'il ou elle fait des réunions, par exemple, il n'y a plus aucun débat, son avis n'est plus jamais remis en question. Et s'il n'y a pas de lien de confiance, si je ne sais pas que mon supérieur hiérarchique me fait confiance et que je lui fais confiance, comment je vais pouvoir m'opposer à lui, en fait, sachant que c'est lui qui a, entre guillemets, la main sur ma place dans l'équipe, quelque part. Donc, il faut créer ce lien social, l'entretenir, ce lien social, parce qu'après, ça va faciliter pour les uns et pour les autres les interactions sociales. Et donc, adopter une posture tournée vers l'autre, on va leur demander à ces personnes de l'équipe comment ils vont et écouter la réponse. Pas juste « j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien, comment vous allez ?» et se dire qu'on va vraiment donner du temps dans une réunion à ça, même si ça fait perdre des minutes sur l'ordre du jour. Non, c'est vraiment important parce que ça va contribuer à établir un climat de confiance. Et ça, ça va être très, très vertueux pour le bien-être des équipes, d'une part, mais aussi pour leur efficacité et leur capacité à travailler ensemble. Donc, il s'agit de changer de posture, d'avoir un déclic aujourd'hui qui est très nécessaire, de se dire que un travail efficace, ça se bâtit aussi sur des interactions sociales de qualité. Et donc, il faut nourrir ces interactions, leur donner du temps pour qu'elles existent. Il faut aller un peu contre ce mouvement qui voudrait qu'on dédie toute notre énergie à des tâches bien stratégiques, bien cadrées, et que l'on donne du temps aux interactions sociales. Et ça, c'est très important. Et aujourd'hui, plus que jamais, je crois, on a besoin de retrouver des temps d'échange de qualité, des temps d'échange informels, de comprendre comment les gens vont. Et pour les managers, comme pour les équipes, c'est des choses qui sont très, très bienfaisantes.